Voilà. Bon, alors puisqu'il a déjà commencé à parler, c'est inutile pour moi de le présenter. Je présente néanmoins Christian Bonnet, qui est l'un des meilleurs spécialistes que nous ayons, non, pas seulement sur Lichtenberg, mais par tout un ensemble de philosophes qui parlent souvent allemand, il faut le dire, et qui va nous parler de Lichtenberg, où les lumières inquiètent. Et évidemment, tout le monde connaît le lien intime qu'il y a entre Lichtenberg et Bouvresenberg. Et donc, c'est tout à fait topique. Christian, à toi.
Merci, Pascal. Je voudrais pour commencer dire que je suis très, très, très heureux d'être ici. Remercier Claudine Tiercelin de m'avoir invité. Heureux et ému en raison des liens anciens. Voilà. Avec Jacques Bouvresse, dont je fus l'élève, comme beaucoup d'entre nous, mais il y a déjà un certain temps. Si Lichtenberg n'occupe pas dans l'œuvre de Jacques Bouvresse, certes, la place qui occupe Wittgenstein au Musil, il y est toutefois présent d'une manière discrète mais continue, qui témoigne d'une affinité, j'allais dire une complicité, tant par le ton, je pense bien sûr à l'ironie, que par la manière de concevoir le rôle et le pouvoir de la raison, c'est-à-dire, me semble-t-il, quelque chose qui a quelque rapport avec la question qui est l'objet même aujourd'hui de ce colloque. Le titre de mon exposé, Lichtenberg ou les Lumières inquiètent, est lui-même directement inspiré d'une remarque de Jacques Bouvresse, qui observe, c'est dans le livre d'entretien avec Jean-Jacques Rosa qui s'appelle « Le philosophe et le réel », je cite... que Lichtenberg est le représentant de ce que l'on pourrait nommer l'Aufklärung inquiète, celle qui a déjà une perception très aiguë de ses limites, de la nécessité, par exemple, de rendre justice aux sentiments, à l'affectivité. Fin de citation. Pour le dire autrement, Lichtenberg est un rationaliste sceptique. C'est du reste ainsi le rationalisme sceptique de Lichtenberg que vous aviez intitulé, cher Jacques Bouvresse, une conférence de, en fait, tenue ici même en 2010 à l'occasion d'un grand colloque Lichtenberg. Bien que Lichtenberg partage l'idée de Kant, selon laquelle les lumières consistent dans la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute, son inquiétude et son scepticisme portent sur la capacité effective des hommes, et il faudrait sans doute ajouter sur leur volonté de se servir de leur entendement et d'oser penser par eux-mêmes, comme les y exhorte le texte de Kant. L'une des plus singulières applications que l'homme ait fait de la raison, dit Lichtenberg, est certes de la tenir pour un chef-d'œuvre, mais de ne pas s'en servir et de s'être coupé les ailes avec lesquels il était né. Fin de citation. On chercherait donc en vain chez lui cet optimisme un peu naïf que l'on prête habituellement, sans doute à tort du reste dans bien des cas, les hommes des Lumières ne sont pas tous, été aussi naïfs qu'on le dit parfois, mais on chercherait en vain chez lui cet optimisme un peu naïf qu'on prête habituellement, même si c'est à tort dans certains cas, aux représentants des Lumières. Lichtenberg ne pense pas que l'homme soit bon par nature. L'un de nos aïeux doit avoir lu un livre interdit, dit un aphorisme. Et il n'est ni convaincu qu'il soit possible d'éduquer les hommes, ni que cela suffise à les rendre meilleurs et plus sages. Ce qui ne signifie pas non plus dans son esprit que les hommes soient nécessairement méchants. N'est pas une idée trop artificielle de l'homme, écrit-il, mais juge-le naturellement, ni trop bon, ni trop mauvais. Pour Lichtenberg, on pense ici, on nous apparaît ce matin de Musil, on pense ici à Musil et à son célèbre théorème de l'amorphisme humain. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Rien n'est en outre à ses yeux plus insondable que le ressort de nos actions, ce qui fait, pour le dire avec ses mots, et je le cite de temps en temps parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il dit quand même les choses beaucoup mieux que je ne le ferai, qu'il y a, dit-il, de très braves gens, mais que la moitié du bien et du mal que l'on dit d'eux n'est pas vrai. L'un des reproches adressés régulièrement par Lichtenberg aux philosophes est d'oublier que l'homme n'est pas un être de pure raison, d'entendre trop peu la voix du sentiment, die Stimme der Empfindung, alors qu'il estime que c'est encore une grande question, je le cite, de savoir si c'est par le cœur ou par la raison que nous sommes le plus fortement liés au monde qui nous entoure. Or, le fait que Lichtenberg fasse ainsi droit au sentiment et à l'affectivité a conduit un certain nombre de commentateurs à en faire, sinon un romantique, du moins un pré-romantique. C'est le cas, par exemple, de Albert Schneider, qui est l'auteur d'un des quelques livres qui existent en français sur Lichtenberg, qui s'appelle Georg Christoph Lichtenberg, précurseur du romantisme, qui est paru dans les années 50. Il y en a d'autres. Or, cette lecture ne me semble pas du tout aller de soi. Il suffit pour s'en convaincre de lire, par exemple, les jugements portés sur le Werther de Goethe, dont la sentimentalité larmoyante le révulse. Je cite « Le plus beau passage du Werther est celui où il tue le pleutre. » Ou encore cette remarque dirigée à l'évidence contre le Sturm und Drang « Si une autre génération devait un jour reconstituer l'homme à partir de nos écrits sentimentaux, ils croiront que c'était un cœur avec des testicules, un cœur avec un scrotum. » Fin de citation. Si Lichtenberg ne partage pas entièrement l'optimisme rationaliste de certains de ses contemporains, il n'en est pas moins, assurément, un authentique Aufklärer. On retrouve chez lui les idées et les thèmes classiques, généralement considérés comme caractéristiques de la Aufklärung. Un aphorisme tel que « Dieu fait les animaux et l'homme se fait lui-même » évoque de nombreuses formules du même genre au XVIIIe siècle. Par exemple, certaines que l'on trouverait dans l'idée d'une histoire du point de vue cosmopolitique de Kant. En dépit de son scepticisme, voire de son pessimisme, Lichtenberg croit au progrès. Il juge, je cite, qu'on se trompe lorsque l'on croit que toute nouveauté relève uniquement de la mode. Il y a quelque chose de solide en dessous. Le progrès de l'humanité ne doit pas être méconnu. Et lui-même ne méconnaît nullement les progrès accomplis par son siècle, comme en témoigne le texte, alors qui en principe devait vous être distribué, que certains ont peut-être, qui commence à notre XVIIIe siècle, n'aura certainement pas à avoir honte le jour où il transmettra au XIXe son inventaire des connaissances réellement acquises, quand bien même cette transmission devrait avoir lieu demain. Bon, je vous l'avais distribué pour ne pas le lire, je ne vais pas, évidemment pas vous le commenter. Suit, comme vous le verrez, une longue prosopopée du XVIIIe siècle, dans laquelle Lichtenberg imagine ce que ce dernier pourrait répondre au XIXe si demain celui-ci lui demandait « Qu'as-tu apporté et qu'as-tu vu de neuf ?» Et il imagine pour finir quelques-unes des découvertes susceptibles d'être faites à l'avenir. Cet hymne au progrès est cependant teinté, comme vous le verrez sur le texte, bon, comme souvent chez Lichtenberg, d'ironie, je dirais même de mélancolie. On notera que ce progrès n'est en rien nécessaire, les découvertes se font au hasard, ceux qui les font ne sont pas certains d'être toujours récompensés, ils peuvent très bien subir dans ce texte, il y a l'histoire du cochon de Lunebourg. Alors le cochon de Lunebourg, je crois, c'est à Lunebourg, il y a des sources d'eau salée qu'un cochon a découvert par hasard. Ce cochon ensuite a été tout simplement transformé en charcuterie. Semble-t-il, je crois, même on raconte que ça, la peau du cochon aurait été un moment suspendu dans l'hôtel de ville de Lunebourg en souvenir des bienfaits rendus à la communauté. On peut également s'interroger sur le réel progrès que constituent certaines des découvertes imaginées par Lichtenberg. Enfin et surtout, on peut se demander si toutes ces découvertes et ces nouvelles connaissances sont réellement de nature à favoriser un véritable progrès de l'homme lui-même. On parle beaucoup des Lumières, dit Lichtenberg, et l'on dit que l'on en souhaite davantage. Mon Dieu, à quoi bon toute cette lumière si les gens n'ont point Dieu, ou bien ferment volontairement ceux qu'ils ont? De manière générale, lorsque Lichtenberg a recours à la métaphore des Lumières, il ne manque jamais d'évoquer ce qui les obscurcit, leur fait obstacle ou menace de se retourner contre elles. Je voudrais proposer, écrit-il, comme signe des Lumières, celui bien connu du feu, c'est le delta majuscule. Il dispense lumière et chaleur et est indispensable à la croissance et au progrès de tout ce qui vit, mais utilisé de façon inconsidérée, il sait aussi brûler et détruire. Ou encore, ce que l'on raconte sur les bienfaits et les désavantages des lumières peut bien sûr être représenté par une fable sur le feu. Il est l'âme de la nature inorganique et son usage modéré rend la vie plaisante. Il réchauffe nos hivers et éclaire nos nuits. Mais pour ce faire, il faut des torches et des chandelles. Éclairer les rues en mettant le feu aux maisons est un fort méchant moyen d'éclairage. C'est pourquoi il faut éviter de laisser les enfants jouer avec le feu. Fin de citation. Il faudrait sans doute parler ici, par exemple, de l'attitude de Lichtenberg à l'égard de la Révolution française. Je ne le ferai pas, ce n'est pas mon propos. Disons que ce n'est ni le rejet de Burke, ni l'enthousiasme de Fichte. Je me contenterai d'un aphorisme d'avril 1793. « La France est en fermentation. »« Es geht in Frankreich », je crois que c'est ça l'expression en allemand. « Cela donnera-t-il du vin ou du vinaigre ?» On l'ignore. Quoi qu'il en soit de son inquiétude ou de son scepticisme quant à la capacité des hommes de servir de leur raison, alors, excusez-moi de citer encore un phrase. On a envie de citer Lichtenberg, c'est tellement extraordinaire, enfin moi je trouve. Bon, lorsqu'il se servait de son entendement, on aurait dit un droitier obligé de se servir de sa main gauche. Bon. Lichtenberg ne pense pas pour autant qu'il faille renoncer à les instruire. C'est même là, selon lui, un devoir. La vérité, l'instruction et l'amélioration de l'homme doit être le but principal d'un écrivain, dit-il. Et c'est bien évidemment le sens de son combat sans relâche, sur lequel a insisté à nombreuses reprises Jacques Bouveresse, contre la schwärmerei, la superstition et le fanatisme. Mais la confiance de nombre de ses contemporains dans la possibilité d'une éducation du genre humain le laisse perplexe. Aussi s'interroge-t-il sur le bien fondé des nombreux projets pédagogiques qui fleurissent en Allemagne comme en France à son époque. En Allemagne, c'est Basedow, enfin le grand hein, qui est sa cible. Je crois, écrit-il, que si nos pédagogues atteignaient leur but, je veux dire, s'ils pouvaient faire que la formation des enfants soit entièrement soumise à leur influence, nous n'aurions plus aucun grand homme véritable. Ce qu'il y a de plus utile dans notre vie, généralement, personne ne nous l'a appris. Et il est de même convaincu, écrit-il, que si un jour Dieu crée un homme selon l'idée qu'en ont les maîtres et les professeurs de philosophie, cet homme devrait être enfermé à l'asile dès le premier jour. On pourrait, dit-il, en tirer une jolie fable. Un professeur prit la providence de faire de lui un homme à l'image de sa psychologie, elle le fait et il est conduit à l'asile. Aussi conseille-t-il de laisser faire le hasard en matière d'éducation plutôt que de procéder de manière volontariste et, dit-il pour finir, de sélectionner les esprits auxquels le hasard a fait présent d'une bonne éducation. Si Lichtenberg éprouve, comme vous le constatez, une certaine méfiance à l'égard des philosophes, des professeurs de philosophie, de ceux, comme il dit, qui vivent de la pensée d'autrui et de leurs projets pédagogiques, il n'est par ailleurs pas convaincu qu'il soit absolument indispensable que tout le monde fasse de la philosophie. Ça, je crois que c'est un point très important chez lui. C'est sans doute du reste le sens qu'il faut donner à la réponse très célèbre qu'il donne à la question de savoir si on doit philosopher soi-même, question qui lui semble susceptible de la même réponse, comme vous le savez sans doute, que la question « doit-on se raser soi-même ?» Si quelqu'un me faisait une telle question, je répondrais que si on peut le faire comme il faut, alors c'est une excellente chose. Je signale pour l'anecdote, Jacques Bouveresse me corrige si la chose est fausse, mais je crois que dans l'exemplaire que Wittgenstein avait offert à Russell, il avait souligné cette phrase-là. Je pense toujours, continue Lichtenberg, qu'il faut tâcher d'apprendre le second par soi-même, mais pas faire les premiers essais sur la gorge. Agis comme les plus sages ont agi avant toi et ne commence pas tes exercices philosophiques à des endroits où une erreur peut te livrer aux mains du bourreau. Bon, fin de citation. Et le texte, que je ne continue pas de lire, mais le texte prolonge avec une remarque qui consiste dans le fait que la question des exercices ou de l'apprentissage philosophique pour Lichtenberg est une question d'autant plus délicate que s'il est facile de trouver, dit-il, quelqu'un, par exemple, pour corriger ses exercices lorsqu'on apprend les mathématiques, on ne sait pas, en revanche, très bien à qui s'en remettre pour ce qui est de la philosophie. Surtout, dit-il, quand on a étudié l'histoire de la philosophie. Évidemment, encore plus perdu. Cela ne signifie pas toutefois que Lichtenberg pense que l'on ne puisse pas apprendre des philosophes qu'il pratique lui-même assidûment, avec une prédilection marquée pour deux d'entre eux. Spinoza, dont il juge qu'il a eu la plus grande idée qui soit jamais venue à l'esprit d'un homme, et Kant. Chez Spinoza, Lichtenberg est bien sûr sensible à la critique de la superstition. Il se reconnaît en outre dans son déterminisme ainsi que dans l'idée que notre croyance au libre arbitre n'est que l'ignorance des causes qui nous font agir. Il le dit dans des termes qui sont tout à fait spinozistes. Il nous est en général impossible de percevoir les premiers commencements. Nous ne percevons partout que ce qui est arrivé et non comment cela est arrivé. Quand donc nous croyons que maintenant nous faisons une chose, elle est déjà faite. Mais la grande idée de Spinoza est avant tout à ses yeux, semble-t-il, celle, je dirais, de l'unicité de la substance, c'est-à-dire le refus de ce qu'il appelle l'affreux dualisme, le corps et l'âme, le monde et Dieu, ce qu'il appelle dans une lettre à Ramberg du 3 juillet 1786, où il développe son rapport à Spinoza, il parle de « das infame Zwei », l'infâme deux. Lichtenberg pense même que l'approfondissement de l'étude de la nature poursuivie pendant des siècles, dit-il, conduira au spinozisme, et que, je cite, « si le monde dure un nombre incalculable d'années, la religion universelle deviendra du spinozisme épuré, la raison laissée à elle-même ne conduit à rien d'autre, il est impossible qu'elle conduise à autre chose. » Mais le philosophe le plus souvent cité par Lichtenberg à partir des années 80 est Kant, dont la révolution copernicienne fait écho à certaines de ses propres intuitions. Dans la préface aux seconde et troisième éditions de la critique de Kant, écrit-il, la fameuse seconde préface avec la fameuse révolution copernicienne, bien sûr, « il y a des choses fort singulières que j'ai souvent pensées sans les avoir jamais dites. Nous ne trouvons aucune cause dans les phénomènes, nous relevons seulement ce qui correspond à quelque chose en nous, où que se portent nos regards, nous ne voyons jamais que nous-mêmes. » L'idée fondamentale de Kant, telle que le comprend Lichtenberg du moins, est que nous ne sommes nous-mêmes pas moins quelque chose que les objets hors de nous. Si donc, dit-il, quelque chose agit sur nous, cette action dépend non seulement de l'objet qui agit, mais encore de celui sur lequel l'action s'exerce. Ce qui n'est dans l'esprit de Lichtenberg lui-même physicien, comme vous le savez, que l'application au cas particulier de la perception ou de la représentation d'un principe physique tout à fait général, à savoir que la chose qui agit et la chose sur laquelle elle agit sont comme dans le choc à la fois active et passive. Bref, Lichtenberg crédite Kant d'avoir tiré toutes les conséquences, premièrement, du fait qu'un effet quelconque est toujours une coproduction que nous ne sentons ou ne percevons toujours qu'en nous-mêmes, et que tout ce que nous, du fait que l'effet est toujours une composition de la chose qui agit, et de celle sur laquelle elle agit, et deuxièmement, du fait que nous ne sentons, ne percevons toujours qu'en nous-mêmes, et que tout ce que nous sentons n'est jamais rien d'autre qu'une modification de nous-mêmes. Cette lecture, je dirais, physicaliste ou physiologique de Kant, est confirmée par de nombreuses déclarations. Je crois, observe-t-il, c'est K313, bon, excusez-moi de la référence, les références sont dans l'édition promise des Schriften und Briefe de Lichtenberg. À plusieurs reprises, Lichtenberg, je crois, observe-t-il, que l'on aurait pu parvenir à la philosophie kantienne, écrit-il, à partir d'un paradigme emprunté à la physique. À plusieurs reprises, Lichtenberg parle à propos de Kant de physiologie de l'esprit, physiologie des Gemüts. Dans son ouvrage « Langage, perception et réalité », Jacques Bouvresse a souligné l'étroite parenté entre le kantisme de Lichtenberg et celui de Helmholtz, dont les travaux sur la perception sont en quelque sorte la traduction physiologique concrète. J'ai remarqué qu'un autre représentant du kantisme physiologique, de ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle parfois le kantisme physiologique en Allemagne au XIXe siècle, qui est Friedrich Albert Lange, l'auteur de l'histoire du matérialisme, invoque lui aussi Lichtenberg et précisément les textes que je viens de citer pour caractériser ce en quoi consistent, selon lui, les découvertes fondamentales de Kant. Cette lecture physiologique de Kant, qui est celle de Lichtenberg, me semble-t-il, est également une lecture réaliste de Kant, qui s'exprime parfois d'une manière que j'oserais qualifier de prémonitoire si l'on songe à ce qui allait bientôt devenir la tendance dominante du post-kantisme. Je cite « La philosophie ancienne peut bien fonder le royaume qu'elle veut », note Lichtenberg en janvier 1789, « il lui faudra pourtant admettre que quelque chose dans le monde correspond à nos représentations si elle ne veut pas retomber dans les vieilles fadaises bien connues. » L'Apparaien, en allemand, les fadaises, en voulais-je pas les mots, traduire ça. Le fait que connaître des objets extérieurs soit une contradiction, car il est impossible à l'homme de sortir de lui-même, et qu'il n'y ait pas de pont, c'est encore une formule de Lichtenberg qui conduise nos pensées aux objets, ne justifie en effet en rien, pour Lichtenberg, l'erreur radicale, c'est lui qui parle, hein, de ceux qui, disputant contre ces idées de Kant, le tiennent pour de l'idéalisme et pour une tromperie de l'auteur de la nature, s'il en était ainsi. Car, ajoute-t-il, comme toutes les choses dans la nature sont en relation avec d'autres, que peut-on imaginer de plus réel et de plus vrai que ces relations ? Cette idée que rien n'est plus réel que les relations pourrait peut-être aussi, mais il faudrait approfondir la chose, être rapprochée de Helmholtz et d'une forme de réalisme structural, je dirais. Bon. Et donc de choses extrêmement contemporaines. Enfin, du XXe siècle, cela très fortement présente dans une discussion de philosophie de la connaissance au XXe siècle. Toutefois, on perçoit, me semble-t-il, parfois chez Lichtenberg, sur cette question du réalisme, une hésitation analogue à ce que l'on trouve également dans les textes tardifs de Helmholtz. Et il donne l'impression, à la fin des années 1790, et j'aimerais beaucoup avoir tout à l'heure, sans doute, l'avis de Jacques Bouvray, cette question de considérer de plus en plus la question du réalisme et de l'idéalisme, lui aussi un petit peu, comme c'est le cas chez le dernier Helmholtz, au fond, comme une question métaphysique dénuée de sens, pour exprimer les choses en termes positivistes. Je cite, hein, « Il m'importe vraiment peu que l'on veuille appeler cela de l'idéalisme. Ce ne sont pas les noms qui comptent. C'est du moins un idéalisme qui, dans son idéalisme, reconnaît qu'il y a des choses hors de lui. » Une citation. Quoi qu'il en soit, si vous m'accordez que l'idéalisme spéculatif allemand n'était peut-être pas le seul prolongement ou le prolongement naturel et obligé du kantisme, mais qu'il a existé une autre postérité tout aussi légitime, en dépit d'une présence infiniment plus modeste dans les manuels d'histoire de la philosophie, celle d'un kantisme que je qualifierais, pour faire bref, de réaliste et épistémologique, Lichtenberg est, me semble-t-il, l'un des tout premiers, immédiatement dans les années qui suivent l'apparition de la raison pure, à avoir exploré cette voie. Son kantisme est tout sauf dogmatique. Un kantien dogmatisant, écrit-il, n'est certainement pas un kantien authentique. Il écrit ça à son frère, quelques jours avant sa mort, 3-4 jours avant sa mort. D'où son ironie fréquente à l'égard des disciples de Kant. Je crois que même les partisans de M. Kant reprochent à leurs adversaires de ne pas le comprendre, écrit-il. De même, beaucoup d'entre eux croient que Kant a raison parce qu'ils le comprennent. On devrait toujours se souvenir que le fait de le comprendre n'est pas encore une raison de le tenir lui-même pour vrai. Fin de citation. Kant lui-même, estime-t-il, s'est au demeurant parfois laissé porter bien trop loin par le succès de sa critique de la raison pure. Lichtenberg a par exemple de sérieux doutes, pour ne pas dire plus, à l'égard de la philosophie pratique de Kant. Sans même parler de ce qu'on d'absurde à ses yeux, la reconduction du dualisme et l'affirmation de la liberté nominale, cette morale exclusivement fondée sur des principes rationnels lui semble, pour tout dire, enfin il le dit comme ça, une morale de vieux. Je cite plusieurs choses enseignées par M. Kant, en particulier à propos de la loi morale. Pourrait-elle être une conséquence de l'âge ? Quand la passion et les inclinations ayant perdu de leur force, il ne reste plus que la raison. Si le genre humain mourait à 40 ans, dans la force de l'âge, quelle influence cela aurait-il sur le monde ? Nombre de choses étranges naissent du lien avec la tranquille sagesse de l'âge. Et il termine par cette question : n'y aura-t-il pas un jour un État où l'on décapitera tous les hommes de 45 ans ? Fin de citation. Sur ces matière, je pense en particulier à la question de la liberté, le kantisme de Lichtenberg m'évoque même parfois quelque chose comme la philosophie du comme-si de Weinger. Ce rapprochement, je ne suis pas du tout le premier à le faire, Il a été suggéré, même développé, par un travail qui a été fait en Allemagne dans les années 20 du siècle passé, par quelqu'un qui s'appelle Josef Dostal-Winkler. Ce rapprochement, me semble-t-il, peut s'autoriser un ensemble de textes où la liberté, c'est-à-dire plus exactement pour Lichtenberg, la croyance en la liberté, semble bien et bien être une fiction. Qu'il faille parfois préférer, je cite, une hypothèse fausse à celle qui est exacte, on le voit avec la doctrine de la liberté humaine, bon, par exemple. Et Lichtenberg, de s'émerveiller de ce chef-d'œuvre de la création qu'est l'homme, dit-il, ne serait-ce que pour cette raison que, alors que tout est déterminisme, il agit comme un être libre. Si bien que, écrit-il encore dans un autre aphorisme, l'homme est en fin de compte un être si libre qu'on ne peut pas lui contester, excusez-moi, le droit d'être ce qu'il croit être. On trouve des textes de même tonalité, sur lesquels je ne peux bien sûr pas m'arrêter ici, touchant la religion. Pour ce qui est de ces questions, cette idée que bon, des fictions, on pourrait enfin citer le texte dans lequel Marx verra l'anticipation de son Unrettbares Ich, et selon lequel supposer postuler le jeu est un besoin pratique. Le scepticisme ou le pragmatisme de Lichtenberg sur ces questions comme sur d'autres tiennent, me semble-t-il, dans une large mesure aussi à sa conception du langage, qui n'est pas sans conséquence sur sa conception de la philosophie elle-même. Lichtenberg distingue en effet entre ce qu'il appelle la philosophie pure et la philosophie impure. Qu'est-ce que la philosophie impure ? C'est celle qui se trouve dans nos représentations communes, c'est-à-dire pour l'essentiel dans nos manières de parler. La philosophie impure, que Lichtenberg appelle parfois aussi la fausse philosophie, est, je cite, incorporée à tout notre langage, au point, estime-t-il, que nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, raisonner sans raisonner faussement. On ne songe pas que parler, que ce soit sur n'importe quoi, est une philosophie. Quiconque parle allemand est un Volksphilosoph. Or, bien des erreurs ou des préjugés reconduits par les philosophes eux-mêmes viennent précisément de là. D'où l'idée, formulée en ces termes, que toute notre philosophie est rectification de notre usage du langage. Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprachgebrauchs. Cette caractérisation de la philosophie comme sprachkritik a des accents bien sûr très contemporains, qui n'ont pas manqué d'être remarqués. Von Richt a écrit un article sur Lichtenberg où il développe évidemment cet aspect-là. C'est quelque chose également qui a été noté Weismann. Weismann, dans le Vorwort de l'édition des textes de Schlick, cite cette formule et il cite à la fois Frege, Nietzsche et Lichtenberg. Bon. Et lequel Schlick, puisque j'évoque Schlick, dans un texte de 1928, dit de Lichtenberg, j'ai trouvé cette forme tout récemment, c'est la préface que Schlick avait rédigée pour le livre de Schlick, de Weismann, qui est paru beaucoup plus tard, et dans lequel il parle de Lichtenberg comme étant, je n'ai pas la formule en tête, j'aurais dû la noter, mais le soldat inconnu de l'Aufklärung, ou quelque chose comme ça. C'était une assez jolie formule, je trouve. J'ai encore du temps.
Tu as.
Cette caractérisation de la philosophie, donc, je parle critique, je n'insiste pas à développer plus que je ne le fais là, mais il est clair qu'à partir de là, l'une des tâches que s'assigne Lichtenberg est lui aussi en un sens de clarifier notre usage du langage et d'en déjouer les pièges. Toutefois, à aucun moment, on ne trouve chez lui le projet d'une langue parfaite, transparente à elle-même. On peut même noter à ce propos son scepticisme et son ironie à l'égard du projet leibnizien de caractéristique universelle. C'est très frappant, ça, dans les textes. J'en cite un, peut-être, ici, encore. Bon, une langue qui exprimerait toujours en même temps la ressemblance des choses serait plus utile à l'État que la caractéristique leibnizienne. Je pense, par exemple, à directeur de conscience plutôt que prêtre, à crétin, c'est Dummkopf, au lieu de dandy, c'est Stutzer. Stutzer, c'est ça, non ? Stutzer, non ? Une grande dandy, je ne sais pas, enfin, il me semble, c'est là. Buveur d'eau au lieu de poète anacréontique. Bon. Fin de citation. Un projet comme celui de Leibniz suppose en effet que l'on puisse procéder par définition. Or, Lichtenberg pense que, je cite, « l'avantage incommensurable que le langage présente pour la pensée consiste à lui fournir de manière générale des signes pour les choses plutôt que des définitions. » Et que c'est précisément lorsque l'on cherche à tout prix à définir que l'utilité du langage est en partie supprimée. Dire ce que sont les choses est la tâche de la philosophie, c'est lui qui parle. Le mot ne doit pas être une définition, mais un simple signe. Et il est convaincu, au fond, c'est ce qu'il dit, que expliquer les mots ne sert à rien, dit-il, car en expliquant les mots, je ne change pas, je cite, les pronoms et les déclinaisons. Ces pronoms et ces déclinaisons sont ceux de la fausse philosophie, ou de la philosophie impure, ce qui fait que l'on nous enseigne toujours la vraie philosophie avec le langage de la fausse. Les deux philosophies sont en effet inextricablement mêlées. La philosophie pure entretient encore et toujours en catimini, elle ne peut pas faire autrement une liaison amoureuse avec l'impur, dit-il, et il en ira ainsi jusqu'à la fin des temps. Le philosophe ne parlera donc pas une autre langue que celle de cette philosophie commune, incorporée à notre grammaire, à nos pronoms, à nos déclinaisons. On pense bien sûr ici à Nietzsche. Et c'est par conséquent dans notre langue commune que s'opère ou doit s'opérer la clarification qui est sa tâche propre. Le paysan utilise toutes les propositions de la philosophie la plus abstraite, simplement emmêlée, cachée, entravée, latente. Comme disent le physicien et le chimiste, le philosophe nous donne les propositions pures. Il reste, pense Lichtenberg, que quand on y réfléchit bien, je le cite à nouveau, on trouve beaucoup de sagesse déposée dans le langage. D'où cette idée que le meilleur mot est celui que tout le monde comprend. Que l'on se garde donc de rejeter les mots compris de tous et surtout pas sous le prétexte qu'ils donneraient un faux concept de la chose, car il n'est pas vrai qu'ils donnent un mauvais concept, puisque je sais ce que je présuppose, qu'il sert à distinguer la chose. Pour le reste, ce n'est pas le mot que je vais apprendre, ce n'est pas par le mot, que je vais apprendre quelle est la nature de la chose. D'où, évidemment, l'écriture et le style si singuliers de Lichtenberg. Ne pouvant s'exprimer avec une autre langue que celle de cette philosophie commune déposée dans le langage, le philosophe parlera, dit-il, avec les mots de la philosophie commune de choses qui la dépassent, il parlera par parabole. Hein. Il en va ainsi, pour ainsi dire, dit-il, comme de la peinture. La philosophie ne peut regarder aucun objet en face, et encore moins en représenter tous les traits. Chacune tente une certaine tournure, un certain profil, et choisit certains traits qui y conviennent. Il ne faut bien sûr pas perdre de vue non plus, pour juger du style philosophique de Lichtenberg, que, comme je l'ai rappelé, comme chacun le sait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que c'est avant tout un scientifique, un physicien, et qui plus est un expérimentateur. On lui doit même un certain nombre de découvertes et de travaux dans ce domaine. Son rationalisme est donc lui-même un rationalisme expérimental. Et il le dit expressément, on doit expérimenter avec les idées. Man muss mit Ideen experimentieren. En effet, lorsque, en réfléchissant, dit-il, nous nous en remettons aux liaisons naturelles des formes de l'entendement et de la raison, les concepts collent, adhèrent, kleben, hein, si souvent à d'autres, qu'ils ne peuvent pas se joindre à ceux auxquels ils conviennent véritablement. S'il y avait comme en chimie une solution où les différentes parties flotteraient légèrement en suspension et pourraient par conséquent suivre chaque impulsion, mais comme ce n'est pas le cas, on doit mettre les choses en relation intentionnellement. L'un des procédés favoris de Lichtenberg, par exemple, est de rechercher des ressemblances. Il dit quelque part, si je suis fort en quelque chose, c'est pour trouver des ressemblances. La faculté de découvrir ces similitudes, c'est ce qu'il appelle le witz, l'esprit, qui parfois qu'il distingue de l'entendement. Le witz étant, dit-il, le finder, il le met en anglais, parce qu'après il met finder entre parenthèses en allemand avec une majuscule. Le découvreur, l'entendement étant l'observateur. Sans cette faculté de repérer les similitudes, qu'est le witz, l'homme ne serait rien du tout, dit-il, car la ressemblance des circonstances est assurément la seule chose qui nous conduise à la connaissance scientifique. Cette manière de concevoir la connaissance comme ce qui permet aux hommes de repérer les circonstances identiques, et sans quoi notre existence serait impossible, est là, me semble-t-il, là encore, assez caractéristique d'une conception que nous appellerions aujourd'hui positiviste. Est également caractéristique chez lui d'une telle conception, je ne peux pas le développer, sa méfiance à l'égard des hypothèses, bon, mais bien sûr, je ne vais pas Il me reste 5 minutes, non, quelque chose comme ça. Parmi les autres procédés qu'affectionne Lichtenberg, on peut évidemment indiquer, par exemple, le changement d'échelle, qu'il s'agisse de grossir ou de rapetisser. Dit-il, si la sagacité est un verre grossissant, l'esprit est un verre rapetissant. Croyez-vous donc que les découvertes se font seulement au moyen des verres grossissants ? Je crois que bien plus de découvertes ont été faites dans le monde intellectuel au moyen de verres rapetissants ou du moins d'instruments semblables. Bon, j'ai un certain nombre d'exemples à votre disposition, mais je vous en fais grâce parce que sinon je vais déborder le temps qui m'est imparti. Procèdent du même esprit les variations, les changements de point de vue ou encore les inversions ou les déplacements de maximes ou de proverbes qu'il affectionne particulièrement. Le goût de Lichtenberg pour ses procédés, parfois poussé jusqu'à l'absurde, tient de manière générale à sa volonté d'aller contre les préjugés, ou ce qu'il appelle l'habitude. « Je voudrais, écrit-il, pouvoir me déshabituer de tout, pouvoir voir de manière neuve, entendre de manière neuve, sentir de manière neuve. L'habitude corrompt notre philosophie. Elle fait que l'on tient l'injustice pour le droit et l'erreur pour la vérité. » Par conséquent, pour lui, tout ce qui va contre cette paresse de la pensée est bon, et l'un des moyens d'invention les plus féconds consiste ainsi, dit-il, « dès que l'on n'entend quelque chose, à se dire à soi-même « ce n'est pas vrai » et à chercher ensuite les raisons pourquoi on le dit. » Un commentateur allemand, qui s'appelle Albrecht Schoene, a rapporté cette démarche à la méthode expérimentale du physicien qu'est Lichtenberg. Il a relevé notamment l'usage fréquent chez lui de formes grammaticales ou verbales exprimant l'irréel et a souligné en particulier le rôle de ce qu'il appelle les hypothèses au subjonctif, au conjonctif, lesquels consistent à se demander ce qui se passerait si. Sophie Gigot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'il doit parler de demain dans notre colloque, s'appuyant sur ses analyses, a dans un petit livre sur Musil tout récent, et un excellent livre à mon avis, elle a récemment rapproché cette philosophie expérimentale de Lichtenberg de la manière dont Musil procède lui-même en littérature. Bon. Vous évoquiez ce matin, Musil, avec lequel Lichtenberg partage bien d'autres traits, hein, et en premier lieu ce souci de prendre en considération le sentiment sans sacrifier les exigences de la rationalité, souci auquel l'ironie, chez l'un comme chez l'autre, ainsi que le recours à des procédés d'écriture, au fond parfois analogues, évoqués à l'instant, n'est bien sûr pas étranger. J'ai esquissé le portrait, sans trop forcer le trait, j'espère, d'un Lichtenberg sceptique, positiviste, pragmatique, fictionnaliste, etc. Et j'en passe. Bon, dans le passage du philosophe et le réel, cité au tout début de cet exposé, Jacques Bouvresse résume l'attitude de Lichtenberg à cet égard en disant que, je cite, « Il est conscient que la dose de vérité que l'être humain est prêt à supporter est probablement plus réduite qu'on aimerait à le croire, mais que cela ne peut pas constituer un argument en faveur de l'erreur et de l'illusion. » Pour humble et modeste qu'elle soit, les lumières inquiètes de Lichtenberg ne nous invitent, me semble-t-il, en effet nullement à renoncer à la raison et à l'idéal d'émancipation pour le savoir qui fut celui de l'Aufklärung. Elles nous engagent peut-être simplement à lui donner une forme qui soit à notre mesure. Ce que vous me permettrez de résumer d'un dernier aphorisme de Lichtenberg, dont Jacques Bouvresse a écrit, je crois, un jour, c'était, me semble-t-il, dans « Rationalité et cynisme », que c'était à ses yeux la plus belle définition que l'on ait jamais donnée de l'Aufklärung, à savoir qu'elle consiste, dit Lichtenberg, à proprement parler en concept correct de nos besoins essentiels. Je vous remercie de votre attention.
Beaucoup à Christian d'avoir palpé le crâne de Lichtenberg. Et maintenant, je voudrais bien que la personne avec laquelle nous sommes supposés dialoguer s'y prête. Oui.
Vous essayez de transformer la supposition en réalité. Non, mais cela dit, je me sens extrêmement gêné de faire un commentaire quelconque, tellement je trouve que cet exposé se suffit à lui-même. J'ai c'était vraiment tout à fait remarquable. Et j'ai l'impression de... Ou bien j'ai oublié beaucoup de choses concernant Lichtenberg, ou bien alors vous avez fait un travail vraiment...
Tout ce que je sais, je vous le dois. Hein, bon, enfin...
Non, simplement une remarque. J'ai été très intéressé par la façon dont vous avez évoqué la question du Lichtenberg idéaliste ou réaliste. C'est vrai que c'est très compliqué. Après, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu une période où il a considéré vraiment que ce que Kant avait démontré, d'après lui, hein, parce qu'il considère ça vraiment comme quelque chose de démontré, ce que Kant avait démontré, c'est que, dit-il, dans une formule dont je ne me souviens plus littéralement, mais qui revient à peu près à dire à ceci, nous ne connaissons jamais le monde, nous nous projetons en lui. Vous devez voir à quoi je fais allusion. C'est-à-dire, là, on a l'impression qu'il est, il va très très loin dans le sens de l'idéalisme. Et puis, effectivement, à la fin, si je me souviens bien, il est mort en 1799.
Hein, il est mort en février 1999.
Oui, c'est ça, il n'a pas connu les débuts du 19e siècle. On a l'impression qu'il est repris par un souci réaliste. Hein, c'est-à-dire, se dit, il y a au moins quelque chose qui est absolument réel, c'est que... Il y a quelque chose qui agit de l'extérieur sur nous, donc il ne peut pas y avoir de doute sur la réalité de cette action, ni sur le fait qu'elle a pour origine un objet extérieur. Ou dit-il par prudence, autre que nous. Parce que comme vous savez, il dit que ce n'est pas la même chose de dire extranos.
Fraternos, c'est ça, voilà, le fameux texte.
Et c'est pas la même chose de dire en dehors de nous et autre que nous. Mais en tout cas, là, effectivement, il revient, il essaie de revenir à une forme de réalisme. Le problème étant, comme vous savez, parce qu'il est archi connu, qu'une fois qu'on a reconnu qu'indiscutablement, nous expérimentons l'action exercée par une réalité extérieure sur notre esprit, il reste encore entièrement à résoudre la question de savoir si, étant admis que ce que nous expérimentons est le résultat de cette action sur nous, jusqu'à quel point le fait d'expérimenter le résultat de cette action sur nous nous permet-il d'aboutir à une représentation fiable de la cause, hein, c'est-à-dire de l'objet extérieur. À ça s'ajoute évidemment le scepticisme qu'il nourrit à l'égard de l'idée même de causalité. Enfin, bon, je n'insiste pas là-dessus. On pourrait discuter d'une multitude de choses à propos de ce que vous avez dit. Qui encore une fois était extrêmement riche et stimulant. Moi, j'ai une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Je la pose régulièrement quand il est question de Lichtenberg, c'est pourquoi est-il à ce point ignoré ? Parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que c'est un auteur qu'on devrait se précipiter pour lire. Hein. Tous les passages que vous avez cités. Il y a évidemment la profondeur, mais il y a aussi la drôlerie. Je veux dire, c'est un auteur qui a une vie
comique
par moments qui est tout à fait extraordinaire. Alors, ça pose une question, ça soulève une question, parce qu'il semble qu'on ne progresse pas dans son cas. Je pense que dans le cas de Mozille, on n'a pas progressé beaucoup non plus. C'est-à-dire que ça reste quand même un auteur qui... appartient à la catégorie de ceux qui, comme il disait lui-même, qui sont censés être célèbres. Il y a une différence, il dit-il, entre ceux qui sont célèbres et ceux qui sont supposés l'être. Et lui, il appartient à la catégorie des auteurs qui sont supposés être célèbres, je crois encore aujourd'hui. Mais Lichtenberg, c'est pire, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé dans le cas de Wittgenstein, vous avez fait allusion à ça. Il a fait des efforts considérables pour essayer de le faire lire à ses amis anglais, en particulier à Russell, puisqu'on a retrouvé dans la bibliothèque de Russell... un exemplaire des Sudelbücher, enfin je ne sais pas si...
Et fermé chez Schriften, parce que ça devait tous les...
Oui, vous avez raison. Alors Wittgenstein, évidemment, qui avait un souci pédagogique constant dans ces affaires-là, pas de façon générale, mais dans ces choses-là, il l'avait, parce qu'il soulignait les passages qu'il considérait comme importants pour la personne concernée, il considérait comme important d'être lu par la personne concernée. Donc la question, c'est un peu... pourquoi en particulier les philosophes s'intéressent-ils si peu à lui ? Est-ce que c'est à cause de l'ironie dont il fait preuve à l'égard des prétentions de la philosophie, dont vous avez donné des exemples multiples ? Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons ? Je ne sais pas, parce que moi, j'affirmerais sans hésiter que c'est un philosophe authentique, et même un philosophe profond. Donc pourquoi est-il à ce point ignoré ?
Je n'ai pas la réponse. Hein. Bon, il est vrai que... Là, ça se pose pour le XXe siècle, parce que pendant longtemps, la question, c'est que beaucoup des textes que nous avons sont quand même des textes qui ont été publiés, enfin, qui sont apparus progressivement. Hein. Même encore Wittgenstein, le Lichtenberg que connaît Wittgenstein n'est pas exactement le même que celui que nous avons, nous, aujourd'hui, avec l'édition Promise, par exemple. Bon. Parmi les gens au XIXe siècle, il y a Nietzsche, au fond, c'est l'un des seuls. Nietzsche dit quelque part, je ne sais plus où, que c'est, à son avis, le seul auteur de prose allemande qui mérite, je cite de mémoire, d'être relu sans cesse.
Oui, le classe dans la catégorie des rares, des rares grands prosateurs qu'il y a eu depuis Goethe.
Voilà, mais autrement, j'avoue que là... Alors, j'avoue que non, je n'ai pas la réponse à votre... Enfin, vous l'avez donnée, enfin, d'une certaine manière, me semble-t-il, dans votre question. Enfin, c'est quand même au moment où on commence à découvrir Lichtenberg. Goethe... j'ai tout à l'heure cité un texte où il est très méchant à l'égard de Goethe et du Werther. Bon, on en trouverait d'autres. Ça n'a pas empêché Goethe. Enfin, ça a un petit peu changé d'ailleurs à l'égard de Goethe. Parce que c'est un des textes où il est beaucoup plus positif hein, dans les textes du Goethe concernant Goethe plus tardif. Hein. Et puis Goethe lui-même en a dit beaucoup de bien.
Hein, oui, tout à fait.
Une formule célèbre, je ne sais pas là où il, c'est quoi, la baguette du sourcier, là où il fait un bon mot, il y a un problème.
C'est-à-dire que surtout Goethe aurait bien voulu avoir la caution de Lichtenberg pour sa théorie des couleurs.
Bien sûr.
Et il ne l'a pas eu, malheureusement. Oui.
Donc, mais bon, ensuite dans la philosophie allemande, il est clair que bon, c'est un auteur qui ne pouvait pas plaire, je sais pas moi, à Schelling, quoi. Enfin bon, je vois pas, ça me paraît pas. À quelques autres non plus.
Oui, non, mais c'est plutôt après, si vous voulez. Bon, que sur le moment, évidemment, il a été mal perçu et mal reçu par les héritiers immédiats de Kant. Ça, je peux comprendre. Mais par la suite, c'est un peu curieux. Ce qui est si peu, même le cercle de Vienne, au fond, n'y fasse pas allusion. Bon, et il a fallu l'intervention de von Richthe pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait une ressemblance de famille quand même assez sérieuse entre lui et Wittgenstein hein, sur la question des relations de la nature, disons, linguistique des problèmes philosophiques.
La fameuse formule, oui, la formule. Langage comme, la philosophie comme rectification du langage, c'est frappant, hein, ça.